RTBFM.
L'agenda, les infos, les bons plans.
RTBFM. 100% tube. Vous écoutez les après-midi d'RTVFM à Carpentras.
Vous écoutez les après-midi de RTVFM avec Alain, Jean-Pierre et Willy en DAB+.
Et ben voilà, ben nous sommes de retour. Un petit problème technique, on s'est absenté un petit peu. Bon, ça arrive, ce sont les aléas du direct. La technique, c'est la technique. L'humain, c'est l'humain. Mais de temps en temps, la technique nous lâche. Mais bon, nous avions ce qu'il fallait. Il y a Florian qui est venu nous dépanner. Willy qui s'est mis derrière, Jean-Pierre. Voilà, vous êtes formidables tous les trois. Je tenais à le souligner, vous avez pu remettre en route la machine.
Il y avait 6 mains sur une table de mixage.
6 mains sur une table de mixage, pour rien vous cacher. Voilà, effectivement, en tout cas, voilà, c'est redémarré, c'est reparti. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Et puis nous avons nos invités qui sont présents. Je vais de suite les présenter, mais juste avant, ben, je souhaite la bienvenue à Annette. Bonjour Annette.
Bonjour Alain.
On est ravis.
Bonjour Willy.
Bonjour Annette. Bonjour tout le monde.
On est ravis de t'avoir dans l'émission, Annette.
Moi aussi.
L'émission, on entend ta voix dans Associativement Votre.
Oui.
Dans Annette quand tu racontes.
Exact.
Et là aujourd'hui, tu as tenu à nous amener des invités, des jeunes. Alors, tu vois, il y a Adrien et Ben. C'est cela qui sont arrivés avec toi pour venir un petit peu présenter. Ce sont des baroudeurs. Un périple super sympa, parce que tu as eu l'occasion de bien me raconter un petit peu ce qu'ils ont pu réaliser, faire. Et ils sont là avec nous, mais peut-être je vais te laisser les présenter, tout simplement, Annette.
Ah bah écoutez, nous avons Adrien de Saint-Didier.
De Saint-Didier, bonjour Adrien. Bonjour,
voilà. Et nous avons Ben de Pernes-les-Fontaines.
Bonjour Ben également, ravi de vous avoir en tout cas tous les deux, d'avoir ces deux jeunes qui vont nous parler vélo, qui vont nous parler de leur périple qu'ils ont réalisé entre Saint-Didier, Pernes, et c'est allé jusqu'au Mexique ou la Guadeloupe, hein, c'est allé...
Ouais, Guadeloupe, Mexique,
Mexique,
Pérou,
voilà, super, voilà, un super périple. Et c'est vrai qu'Annette, quand elle nous a parlé de vous, elle m'a parlé de vous, j'ai dit tiens, pourquoi pas, deux jeunes qui vont nous parler un petit peu de tout ce qu'ils ont pu faire, parce que souvent on dit les jeunes ont tendance à... La mobilité internationale, ils ont du mal. Bien souvent, ils restent autour de chez eux. Ils ont du mal à partir et tout. Donc, justement, vous êtes la preuve vivante. Et vous allez nous dire, justement, que de partir, c'est bien. C'est s'ouvrir sur les autres, ce que vous avez dû faire. Et je suppose, quand on voit vos sourires, que vous êtes prêts à repartir.
Ah, exactement.
On va repartir. Alors, là, je vais peut-être te laisser tout simplement poser quelques questions, puisque tu les connais encore mieux que moi.
Alors, ça a commencé, il y a 2 ans, au mois d'octobre 2021, où ces deux jeunes ont décidé de... partir, chacun pour différentes raisons.
Oui.
Mais je pense qu'ils vont vous l'expliquer mieux que moi.
Toi. Ah ben on va peut-être commencer par lequel c'est Ben qui est de Saint-Didier ?
C'est moi, c'est Adrien.
Adrien, je vais y arriver depuis tout à l'heure. Adrien, mais peut-être nous expliquer alors, par rapport à la question d'Annette, qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Pourquoi partir ? Pourquoi avoir décidé d'un coup de quitter le village et d'aller voir un petit peu ailleurs ?
Alors, le moment est venu grâce à Ben. Mais j'ai voulu partir déjà depuis tout petit. Et ça remonte à un rêve d'enfance qui, grâce aux mystérieuses cités d'or, j'ai souhaité aller à la quête des mystérieuses cités d'or et de découvrir les cultures anciennes, aztèques, mayas, incas. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore découvert la culture inca, mais ce sera pour plus tard quand je continuerai le voyage.
Donc tu avais déjà une âme de tout jeune, Annette, il avait une âme d'Adrien, de futur baroudeur. Tu avais envie de quitter, de partir, déjà de voyager. C'est quelque chose qui te tenait à cœur.
Oui, c'était sûr, mais je n'avais jamais voyagé comme ça avant.
Et Ben, alors que lui, comment ça s'est passé ? Bon, déjà, vous êtes rencontrés comment, tous les deux ?
Nous, c'était au lycée à Fabre.
D'accord,
on s'est rencontrés au lycée.
Vous avez eu l'occasion de parler déjà un petit peu voyage ou pas du tout ? Vous parliez plutôt fille à ce moment-là que voyage ?
Moi, j'étais déjà dans le voyage, au final, depuis assez tôt, depuis 17 ans, je fais des voyages sans argent. Donc pour moi, c'était une évidence de repartir et tout ça chaque année, en fait, reprendre foi en l'humanité comme ça, avec des voyages sans argent où il faut aller... donner de notre temps pour trouver à manger, pour trouver des endroits où dormir. Donc à chaque fois, c'était plutôt pendant les vacances d'été, normalement, entre les études, quoi. Et là, c'était l'occasion de faire un grand voyage à long terme, à vélo aussi, et en bateau, en traversant l'Atlantique à la voile.
Moi, je pense que leur départ, en plus, a fédéré beaucoup de personnes. Parce que quand ils sont partis, tout le monde s'y est mis. On les a regardés partir, on s'est dit, voilà, le vélo à Adrien, on s'est dit, oh là là, tu vas pas faire 10 km, tu auras mal aux fesses. Lui, il était beaucoup plus carré.
Personne n'y croyait, quoi, finalement. Si
c'est-à-dire, on les a aidés. Tout le monde s'y est mis.
Ouais.
Couverture de survie, manteau, on a essayé de trouver des choses pour alléger. En plus, ils sont partis, ils étaient hyper équipés quand même.
Ouais, on avait pas mal de choses, mais on avait bien retapé les vélos avec le bocal à Carpentras, justement. Et après, on avait fait les sacoches aussi à la main avec des toiles que j'avais ramenées moi là, du Mexique quand je vivais au Mexique, du PVC qu'on avait fait avec un ami à Avignon avec l'atelier métissé. avec Jim. Et donc, ouais, on a fait tout un peu à la main pour partir faire cette belle expérience.
Alors, Adrien, donc, vous la rencontre, les voyages, le vélo, tout ça, ça se construit. C'est long, comme disait Annette, quelque chose qui a mûri entre 2021 et 2023, c'est cela ?
Exact, exact. Bon, on est parti en 2021 et entre le moment où Ben est revenu du Mexique et que nous on est parti, au final, il s'est écoulé à peu près 2 mois.
Oui.
Donc ça a été un peu quand même le rush.
Oui.
Parce que ça a été le rush parce qu'on a eu déjà, bon, pour tout dire, une chance de fou furieux parce que on a posté une annonce sur la bourse aux équipiers pour trouver un bateau pour partir de l'Europe. Et du coup, on a trouvé un bateau qui partait du Rio Guadiana, qui est la rivière qui fait la frontière entre le Portugal et l'Espagne et qui allait aux Canaries. Mmh. Et sauf que lui, il avait une date de départ. Donc déjà, on avait une date butoir et il fallait qu'on soit là-bas à cette date, ce qui nous attendait. Et on ne pouvait pas laisser passer cette chance qui était vraiment une chance. Et du coup, on a essayé de faire en sorte d'y être le plus tôt possible, mais du coup, en étant le mieux préparé pour la suite également.
Pour la suite également.
Ça a été très épique quand même, parce que bon, vous êtes arrivé quand même aux Canaries, et là,
suspense.
Vous vous souvenez, octobre 2021, aux Canaries, éruption volcanique.
Volcan qui était en sommeil éteint depuis longtemps.
Oui, 50 ans.
Avec le Covid. Ouais.
50 ans. Donc vous êtes resté, vous racontez mieux que moi.
Ouais, on est arrivé aux Canaries, mais aux Canaries, on n'avait pas de plan pour la suite. Donc, à Recife, qui est un port à Lanzarote, l'île de Lanzarote, la première. Et bien, du coup, il fallait qu'on trouve un autre bateau pour pouvoir continuer, pour aller soit au Cap-Vert, soit traverser l'Atlantique.
Ouais.
Et du coup, on a dû passer au moins un mois sur le port avant de trouver l'opportunité de pouvoir traverser...
Et qu'est-ce qu'on fait pendant un mois, justement, Ben ?
Justement, en fait, ce qui était dur, normalement, quand on voyage, ça se fait du bateau stop et tout ça, un petit peu comme ça, mais souvent, ce qu'ils appellent, c'est la caisse de bord, donc on est censé participer pour tout ce qui est nourriture et tout
bien
ça.
Sûr.
Et nous, en fait, c'était compliqué, parce que notre objectif, c'était de voyager sans argent, on était deux, et on avait deux vélos, on voulait mettre les vélos aussi sur les bateaux. Mm-hmm. Donc dans des bateaux à voile, de 13 mètres, 9 mètres, machin, ça prend de la place quand même pour une longue traversée, c'est compliqué. Donc on allait dans tous les ports alentour, on nous avait prêté un Espagnol nous avait prêté un bateau pour dormir sur son bateau, donc on était sur le port et on demandait, on participait aussi à travailler sur les bateaux, à acquérir des compétences aussi sur la navigation et sur les bateaux en général. Et donc pendant ce mois-ci, c'est ça, on était toujours sans argent et heureusement on avait trouvé un centre social, Calorie Café, dans lequel on travaillait tous les matins, on lavait les toilettes, on lavait le linge, on lavait les tupperwares et ils nous donnaient du coup la nourriture tous les jours en fait. Donc tous les matins on est là-bas et ils nous donnaient de la nourriture tous les jours. Donc ça nous a beaucoup aidé avant de pouvoir trouver en fait quelqu'un qui était sur notre ponton depuis le début, François, 75 ans, capitaine de son bateau de 9 mètres d'Esprit de Sel, qui nous a au final emmené avec lui faire la traversée, parce qu'il nous voyait tous les jours, on l'aidait à refaire son bateau et tout ça, et lui, donc, il voulait traverser l'Atlantique tout seul
et finalement il
a dit bon les gars, je peux pas vous laisser là.
Si vous le permettez, on va rester sur cette partie là après on discutera justement de cette traversée. Donc là on s'arrête sur le côté, vous avez passé un mois aux Canaries, un mois plus ou moins prévu. Vous avez réussi en vous retroussant les manches.
Alors, juste une petite précision que je voudrais savoir. Est-ce que déjà vous aviez un frein par rapport à la langue ou pas du tout? Vous étiez à l'aise?
Moi, je parle espagnol parce que j'avais vécu au Mexique, donc c'est vrai que ça aide.
Ça a aidé pas mal. On se fait une première pause musicale et puis on se retrouve juste après. Je regarde mon ami technicien là-bas qui me fait signe. C'est pris, c'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Quant à nous, ben, on est toujours avec nos invités, avec Adrien et Ben, nos deux vélos, comment on dit ça, des vélos baroudeurs, vélos...
Cyclo-voyageurs.
Cyclo-voyageurs, merci, voilà, cyclo-voyageurs, qui nous parlaient un petit peu de leur périple. Alors là, ils viennent de nous, on s'est quittés juste au moment où ils étaient depuis un mois, aux Canaries.
Et qu'ils allaient et monter qu'ils allaient sur un bateau.
Alors, je te recède la parole, Annette.
Allez, on est reparti ?
Allez.
Donc, ils ont fini par trouver leur capitaine au long cours, 75 ans quand même, hein. Ouais. C'est pas mal. Et parlez-moi du bateau.
Le bateau, un monocoque de 9 mètres.
Ah oui, c'est pas très grand, 9 mètres.
Sur lequel il fallait rentrer deux vélos et 4 personnes, parce qu'on avait rencontré une backpackeuse allemande.
Oui, qu'est-ce que tu appelles une backpackeuse?
Bon, une fille qui voyage avec un sac à dos.
D'accord, ça s'appelle comme cela, avec peu de bagages, qui voyage comme cela. Ah, d'accord.
Exact. Et donc du coup, on l'avait accueillie sur le bateau où on dormait. Et du coup, on est parti avec elle parce qu'elle aussi cherchait à traverser l'Atlantique. Mm-hmm. Et donc voilà, donc 4 personnes, 2 vélos sur un monocoque de 9 mètres.
Ah, c'est la promiscuité là, on est vraiment, c'est tout petit.
Ouais, on avait... Du coup, les vélos, ils prenaient une couchette entière. Donc on n'avait que 2 lits pour 4. Enfin, 2 lits simples pour 4. Ouais. Et ouais, c'était un 9 mètres, un dériveur aussi, donc il n'y a pas de quille, donc il bouge beaucoup. C'est une coque alu, tout le poids est dans la coque. Et voilà, un bateau assez spécial, assez atypique pour voyager.
Donc quoi. Deux couchettes, c'est-à-dire que vous relayiez pour dormir?
Exactement, exactement.
J'ai vite fait le calcul, Annette, deux couchettes à 4, waouh! Wow.
J'ai vu ton œil s'allumer.
C'est là, je me suis dit, wow!
J'ai vu ton œil s'allumer.
La calculette en tête.
En tête, il a dit, waouh!
Et vous aviez le pied marin tous les deux ou pas du tout?
Heureusement que oui.
Et oui, j'avais le pied marin en rejoignant les Canaries.
D'accord.
J'ai pas été mal, j'ai fait « Oh, nickel !»
Ah oui, heureusement.
Il faut savoir que si eux, ils avaient pied marin, notre chère Allemande, par contre, pas du tout.
Ah non, pas du tout. Donc la jeune fille qui était avec vous n'avait pas le pied marin du tout.
Non, elle a vomi pendant 2 semaines sur les...
Oh là, quelle horreur.
Elle était vraiment pas
la pauvre. Vous saviez sûrement plus comment la consoler, la pauvre.
Non, bah ouais, à la... On lui faisait à manger tout ça, mais elle recrachait tout.
Ça allait être terrible. Ouais.
Vous nous rappelez combien de temps vous avez traversé le nombre de jours?
Ça a pris 21 jours.
Des Canaries jusqu'en Guadeloupe, ouais.
Et combien d'escales?
Bah, zéro, non, justement. C'était 6 jours de Portugal aux Canaries, 21 jours des Canaries jusqu'en Guadeloupe. Et après.
Sans escale, donc.
Non.
Non,
non, ouais.
On se dirigeait vers le Cap Vert, et puis à la moitié de la distance, le capitaine a dit bon, on n'a pas besoin d'aller au Cap Vert, finalement.
Ouais.
Donc, puisque le Cap Vert, c'était éventuellement pour nous débarquer, s'il y avait eu un problème ou je sais pas, et pour reprendre des vivres. Mais du coup, vu qu'on avait vraiment un bon vent, des bons alizés, et du coup, on est parti directement sans passer par le Cap Vert.
J'ai fait une petite blague, et vu que l'Allemagne ne mangeait pas beaucoup, il vous en reste assez pour finalement continuer. C'est une petite blague, mais bon, là, bon. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 21 jours sur justement la question que peuvent se poser les auditeurs, je me pose. Pendant 21 jours, 4 personnes dans un petit bateau de 9 mètres, comment est-ce qu'on occupe ces journées? Ça fait rire Annette, mais bon.
Oui, mais moi, j'étais pire parce que j'ai dit à un moment, vous n'avez pas envie de balancer quelqu'un à l'eau, quoi.
Ça fait quoi de plus si tu mets quelqu'un à l'eau?
Parce que 21 jours en autarcie, comme ça, quelqu'un qui vomit tout le temps ou ainsi de suite, ça doit être quand même terrible.
ils vont nous répondre un petit peu. Qu'est-ce qu'ils font pendant
21 jours? Il faut regarder dehors.
Qu'est-ce qu'on fait pendant 21 jours?
Ben, on pêche des sargasses.
Ouais. Donc, alors, la pêche?
On pêche. On lit. La nuit, comme on se partageait une nuit à deux, on faisait 6 heures de quart chacun. Mm-hmm. Donc première partie et deuxième partie. Donc après, quand t'es tout seul avec les étoiles au milieu de l'Atlantique, ça c'est quand même...
Ouais, beaucoup de contemplation, je dirais aussi.
Oui, je pense.
Beaucoup de contemplation.
Incroyable.
Et là, sûrement, quand on est seul, on doit, je sais pas, on revoit un petit peu sa vie, même si vous êtes très jeune, on se projette. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Le cerveau, comment il fonctionne là?
Ben, moi, je disais Bernard Matessier, c'est un des premiers navigateurs et tout ça au long cours. Ouais. Donc, j'ai lu 5 bouquins de lui pendant la traversée. Ça avait une saveur assez particulière en le vivant moi-même là, comme
oui,
ça.
Oui, je pense, oui.
Et donc, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'idées pour la suite, pour continuer à naviguer, quoi. Donc, j'étais vraiment en plein dedans et ça m'a vraiment donné beaucoup envie de...
Et par le fait que les caractères ne sont pas les mêmes, je tourne après la parole, les caractères ne sont pas les mêmes quand nous sommes 4 sur un bateau, est-ce qu'on arrive justement à tempérer, à faire attention à ne pas vexer, quand on y met les formes, par rapport peut-être ce qu'on ne fait pas toujours dans notre société, où on a tendance au moins de coups de klaxon à s'emballer en voiture, je pense qu'on apprend beaucoup là-dessus aussi.
Ben, un petit apéro tous les soirs, ça aide.
Voilà.
On avait quand même, parce qu'on n'a pas de problème d'énergie.
À l'eau de mer.
Non, on avait ce qu'il fallait, on avait des frigos et tout ça. Ouais. Il y avait quand même des panneaux solaires, une éolienne, un hydrogénérateur et tout. Donc, niveau énergie, ça allait, et on avait toujours des bières fraîches et un peu de rhum.
Donc ça rapproche.
Ouais, ça rapproche. Ouais.
Donc, 21 jours, je te recède la parole, Annette.
Alors, il faut savoir aussi que pendant leur traversée, notre papy de 75 ans, qui est quand même le capitaine au long cours, a attrapé le Covid.
Il a dû attraper avant de partir parce qu'il a pas pu l'attraper. Ah oui, il était porteur dans du Covid quand il a.
Il a été testé positif, nous négatif, et en fait, il croyait que c'était à cause de la troisième dose de vaccin qui s'était fait aux Canaries avant de partir. Et donc on est quand même parti, parce qu'on avait fait un faux départ avant en fonction des vents et tout ça, on est quand même parti. Et au final, il n'a pas été bien pendant une bonne semaine. C'est pour ça qu'on devait se faire l'écart de nuit 6h-6h, parce que l'Allemand vomissait, lui il n'était pas bien.
Ah oui, et donc vous êtes retrouvé carrément capitaine du bateau, quoi, parce qu'avec un qui était un peu. Il fait de ce côté-là, c'est pas évident, surtout d'avoir le Covid. Puis il y a l'inquiétude aussi de se dire, est-ce qu'on fait demi-tour ou pas? Est-ce qu'il est à 75 ans?
Ouais.
C'est pas votre âge. Hein,
on avait aussi pas mal d'eau qui rentrait sur le bateau. Donc environ 3 litres tous les 15 minutes quand on retirait.
Ah oui, donc ça occupe aussi ça.
Bah c'est non, parce que c'est pompe électrique.
Voguer et copier. Ouais. D'accord.
Mais effectivement, le capitaine nous a dit qu'à la fin de la pendant la traversée, il avait fait quelques cauchemars vis-à-vis de ça et qu'il avait eu un peu peur, quoi. Parce qu'on savait pas d'où ça venait.
Mais il avait mis un mauvais bouchon, quoi.
Au final, c'était un trou au niveau de la jupe. On était trop lourd pendant la traversée. Il avait jamais eu autant de poids dans son bateau, donc ça n'était jamais rendu compte.
D'accord. Ouais.
Les conditions climatiques, elles ont été comment?
Très clémentes, du vent constant sur pas mal de houle, des fois 2-3 mètres de houle, mais tu t'y habitues, et puis plutôt clémente. Juste vraiment, à la fin, une tempête avant d'arriver en Guadeloupe le dernier soir.
Genre le dernier soir,
ouais, vraiment
tout s'est bien passé, et vraiment un gros grain, mais le dernier soir.
Donc 21e jour, vous arrivez à la Guadeloupe.
Exactement.
Vous séparez. Donc l'Allemande, elle est contente d'arriver, à mon avis, sur Terre.
Ouais.
Donc là, elle est partie. Elle partait vers. Elle avait une idée, un petit peu, de sa direction.
Ouais, elle voulait aller vers la Colombie.
Elle voulait vers la Colombie. Ouais. Donc voilà. Donc effectivement, vous quittez votre collègue allemande.
Ouais.
Le papy de 75 ans, lui, qu'est-ce qu'il fait avec son bateau à ce moment-là? Lui, il part sur une autre destination.
Non, il le laisse à Pointe-à-Pitre et il va faire Noël avec la famille de sa femme qui est en Guadeloupe.
D'accord. Ouais. Justement. Et vous, donc, vos vélos? Et là, vous partez?
Bah, nous, on reste sur le bateau une semaine ou deux.
Ouais.
Avant de trouver un volontariat de construction de bambou. Ouais, construction en bambou.
Pour justement remettre un petit peu de l'argent de côté, je suppose.
Trouver un endroit où on ne gagnait pas d'argent, mais trouver un endroit où vivre pendant le temps de trouver un autre bateau pour continuer notre voyage, quoi.
Là, donc, nouvelle rencontre, construction de bambou. C'était pour une. Pour une ONG, pour une association, c'était
une association.
L'association.
Ouais. C'était une association qui.
Les
Pirates Verts, exactement, qui voulait créer un espace justement avec des constructions en bambou, un petit jardin, et pour recevoir des personnes en situation de handicap.
D'accord.
Pour faire des ateliers, certainement. Mais c'était au début. C'était le début du projet. Il y avait une cabane de construite, ils voulaient en faire une autre. Avec un tipi qui était en cours de construction. Et du coup, nous, on est arrivés sur ce lieu.
Donc, une semaine de coup de main, si je puis dire, pour cette association.
Un mois.
Vous êtes resté un mois, d'accord.
Un mois.
Mais une semaine sur le bateau, et après, vous logiez à quel endroit? Donc, pendant les trois autres semaines que vous étiez en train de donner un coup de main à cette association, chez l'habitant, à droite à gauche?
Sur le lieu, dans les cabanes en bambou.
Dans les cabanes en bambou, à nouveau, une autre expérience, finalement.
Sans électricité, sur un terrain, il n'y avait pas grand-chose, quoi, mais c'était sympa. Il y avait une vue sur la mer, on était sur les hauts de Basse-Terre, et c'était magnifique.
C'était donc là aussi une superbe expérience.
Ouais.
Ok. On se refait une toute nouvelle petite pause et après on continuera, parce que là maintenant nous sommes à la Guadeloupe et après je suppose que votre périple n'est pas terminé puisque vous allez
reprendre
un petit peu et après il y a la suite. On part avec Tommy Joe White suivi de Julien Clerc, un petit français parce qu'il faut mettre un peu français quand même à la radio, avec Hélène, un vieux morceau, tout simplement Hélène. Allez, à
et
tout
dans
suite.
Quelques minutes il sera 16h.
Merci Jean-Pierre.
conversations with the one.
Écoutez en DAB+, sur la communauté de communes Ventoux Sud.
Le satin noir sur son teint blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien ces courtisans, mais j'en prendrais pour 110 ans au moins. ans. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard au démon blanc, oh, de tout démon blanc. Moi je retourne chez ma maman, oh, oh. Moi chez ma maman.
Voilà, c'était Julien Clerc, Hélène. On parlait un petit peu, on était sur la Guadeloupe et le morceau de Julien Clerc rappelle un petit peu justement ce côté
exact.
De nos îles, nos belles îles françaises.
Ouais, où sont restés nos amis.
Ibiza, lui, hein, c'était Ibiza.
Ah, c'était Ibiza.
Mélissa.
Ah, Mélissa, métisse des visas. Vous avez fait ce morceau-là, effectivement. Ouais, tout
c'est
à fait.
Un peu plus près.
Ouais. Allez, nous sommes toujours avec Adrien et Ben, qui sont donc deux haroudeurs. Depuis tout à l'heure, on voyage avec eux. Les Canaries, nous venons d'arriver sur la Guadeloupe. Ça fait un mois que vous êtes sur la Guadeloupe, puisqu'on s'est quitté juste avant la pause musicale. Et au bout d'un mois, donc, vous avez participé à des élaborations de petites cabanes en bambou, on dirait, sur une association qui était installée là-bas. Mm-hmm. Sur Basse-Terre, c'est ça ?
Ouais, exactement.
Et après, au bout d'un moment, vous avez dit, ben là, il faut que je continue, vous avez repris le vélo, et là, on va parler un petit peu de la suite avec Annette qui a posé quelques questions.
Et là, je pense, à mon avis, qu'ils se sont séparés, les deux.
C'est ça.
Ah, oui. Il y a une séparation pas due, vous n'êtes pas disputé, c'est pas ça la séparation.
Non, justement. On avait trouvé, en fait, quand on était sur le port encore à l'époque, dans le bateau sur lequel on est arrivé, on avait trouvé via les réseaux une fille qui pouvait nous amener jusqu'à Saint-Martin, donc une île vers le nord. Mm-hmm. Notre objectif, c'était d'aller au Mexique. Et donc Saint-Martin, ça tombait bien, c'était plus au nord. Et puis on avait entendu qu'il y avait beaucoup de bateaux qui allaient vers le nord là-bas. C'est une île mi-hollandaise, il y a le dollar, il y a l'euro, mi-française. Donc ça bouge beaucoup, ouais. Beaucoup de nationalités différentes. Donc pour nous c'était un bon plan. Donc on l'attendait et c'est pour ça qu'on était dans le volontariat. Et tout ça, on était confiants. Et au final, chaque fois elle repoussait son départ. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas sur son bateau, qu'elle voulait retaper. Et un jour, un matin, elle nous appelle et elle nous dit « Bon, bah, au final, il faut que je refasse mon pont, le pont de mon bateau. » Donc, on repousse encore le départ d'une semaine ou deux. Et du coup, moi, personnellement, j'en ai marre, j'ai envie de bouger. Et du coup, je prends mon vélo et je vais à un mouillage à Grandens, en Basse-Terre. Et là, je demande aux gens qui arrivent avec leur petit dinghy, leur petit bateau sur la côte, Si je peux partir avec eux quelque part. Et en une heure de temps, du coup, je trouve un Russe, un Suédois, un Autrichien et un Français qui me disent, bon, bah, on part cet après-midi à 5h de l'après-midi.
Ouais.
Donc je reviens là au volontariat, je reprends mes affaires et je repars comme ça dans la foulée. Quoi.
Sur un bateau à nouveau.
Sur un nouveau bateau, un 13 mètres.
Et la direction Saint-Martin.
Direction République Dominicaine.
République Dominicaine, ouais. Premier temps.
Mais on est passé par Saint-Martin et tout ça, ça c'est sur la route Antigua, Barbuda, ouais. Saint-Martin et jusqu'à la République Dominicaine.
Donc la séparation avec Adrien.
Voilà.
Qui lui-même, Adrien, donc qu'est-ce que tu décides de faire toi à ce moment-là?
Ah ben, moi j'attends.
Toi tu restes sur... Toi t'as décidé, tu dis moi j'attends, elle finira bien par finir par...
Parce qu'ils avaient qu'une place aussi pour moi en fait, c'est mon vélo, ils étaient déjà 4 et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu
prendre Adrien. Donc toi tu attends Adrien, ça dure combien de temps, qu'est-ce qui se passe donc?
Moi alors je sais plus combien de temps j'ai attendu, mais ouais au moins une semaine ou deux,
enfin,
peut-être un peu plus, mais...
Que Diane soit prêt.
Exactement. Mais bon, mais après une fois que j'ai été avec elle, on a navigué un peu sur les îles en Guadeloupe avant de partir sur Saint-Martin.
Vous étiez que tous les deux là?
Alors on a été.
Bah là, il était tout seul.
On a été que tous les deux avec la capitaine quand on était sur les îles en Guadeloupe. Et puis après, il y a une copine à elle et un pote à sa copine qui sont venus. Sa copine était en train de passer des formations pour justement être, avoir un diplôme dans la capitainerie et pouvoir, pour en faire son métier. Et donc on est monté comme ça à 4 à Saint-Martin.
Donc là, Saint-Martin, vous avez navigué un petit peu, vous êtes allé faire... Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous êtes arrêté sur différents endroits?
Alors moi, Saint-Martin, alors c'était une expérience particulière. Oui. Mais on va dire comment... J'ai fait à peu près un mois et demi de survie.
Oui.
Voilà, comme dans Koh-Lanta, à peu près.
Oui.
Et après, du coup, j'ai rencontré une personne qui m'a accueilli. Donc, je faisais le ménage chez lui, la vaisselle, enfin, un peu comme le volontariat, ce que j'avais fait jusqu'à présent. Au bout de 6 mois, j'ai toujours pas trouvé de bateau. Donc, j'ai rappelé celle chez qui j'étais parti en workaway après les pirates verts. Enfin, le lendemain qu'on se soit séparé avec Ben, pouf, je suis allé chez elle. Donc, je l'ai rappelé, savoir si elle acceptait de me recevoir à nouveau, et donc là j'ai pris l'avion pour revenir en Guadeloupe et attendre et savoir si je repartais vers l'Est ou vers l'Ouest, savoir si je rentrais en France et bah tant pis, ou si j'allais réussir à arriver sur le continent.
Sur le continent.
Et après 3 mois, j'ai réussi, grâce à la bourse aux équipiers, à trouver un convoyage, et donc 10 jours de navigation en catamaran de Guadeloupe jusqu'à Cancun au Mexique. Et donc je suis arrivé après à peu près un an...
Un an.
Au Mexique.
Un an, d'accord.
Et voilà.
Et entre-temps, donc, Ben, toi, en un an, tu as... Qu'est-ce qui s'est passé, toi, pendant toute cette année?
Moi, après la République Dominicaine, je suis atterri en Mexique avec ma copine qui est mexicaine, en fait, moi.
Oui.
Et donc, on a voyagé ensemble.
Mais là, Adrien n'était pas encore au Mexique. Toi,
moi, je suis arrivé plus tôt.
Ouais.
Et on a voyagé ensemble. On a fait des volontariats aussi de construction, de palapa et tout ça, dans des éco-hôtels. Moi, je m'occupais des panneaux solaires et tout ça, parce que j'ai une formation là-dedans.
Mm-hmm.
Donc, on a fait pas mal de volontariats. On est allé jusqu'au Belize, Guatemala. Et après, ma copine, elle a dû rentrer dans sa famille. Et moi, après, j'ai continué mon voyage tout seul jusqu'au Pérou. Quoi.
Vous étiez toujours en contact tous les deux régulièrement? Vous donniez un petit peu des nouvelles?
Ouais, de temps en temps.
De temps en temps, vous donniez des nouvelles pour savoir un petit peu où vous en étiez. Ben, il devait sourire quand il savait qu'Adrien était encore là-bas. Enfin, il a toujours pas parti.
Alors, jusqu'à maintenant, tu parles beaucoup de bénévolat, mais vous avez réussi quand même à trouver quelque chose rémunéré ou pas du tout? Parce qu'il fallait quand même remettre un petit peu de sous dans les poches.
Moi, j'ai fait de la traduction un peu de tours pour des touristes qui étaient rémunérés, ou alors j'ai vendu des bracelets, du macramé, ou alors des portefeuilles que je faisais en boîte de lait aussi. Ça marchait pas trop mal.
Parce que j'imagine qu'il faut quand même un petit budget. Et effectivement, le bénévolat, c'est bien, c'est beau.
Mais
ça fait connaître, mais bon.
Bah, voyage en vélo, au final, quand on a notre tente, un filtre à eau et de quoi dormir. Franchement, il faut juste un petit peu de quoi manger.
Mais là, tu viens de parler d'avion et tout. Donc
Ah oui, là, ça, c'était sur des réserves qu'on avait avant. Moi, quand je travaillais au Mexique, bon, j'avais pas beaucoup. Ouais.
Et surtout lors de votre séparation, vous êtes partagé, vous êtes partagé ce que vous avez amené. Donc, je crois que Adrien s'est dit, moi, je garde la tente.
Attends, il en avait marre d'être dehors aussi.
Et toi, t'es parti avec les hamacs.
Moi, j'avais mon hamac.
Donc voilà. Donc en fin de compte, quand ils sont séparés, ils ont séparé leurs affaires en plus. C'est un peu plus compliqué.
Il n'y a que le vélo que vous avez gardé. Votre vélo tout le long,
c'était nos vélos, nos sacoches. Et
ils sont venus avec.
Oui.
Moi non.
Mais ouais. Toi t'es parvenu avec.
Ben non, moi dans une chute au Pérou.
Ah oui, il est dans un arbre.
Ouais, maintenant il est dans un arbre.
D'accord.
Une relique.
Ah mais il est en totem, ouais, dans une maison de bike.
Donc justement là maintenant par rapport à vous en êtes tous les deux de ce périple, de ce voyage, est-ce qu'il y a des petites choses qui vous en laissez un bon ou un mauvais souvenir? Peut-être on va commencer par Adrien.
De voir à quel point les. Enfin, tu peux rencontrer des gens avec un cœur ouvert, comme, enfin, impressionnant. Et je pense que la même expérience serait très différente si tu voyageais en France. Enfin, un étranger
qui l'accueille en France. Moi, ça, ouais, j'en doute pas. Voilà. J'en doute pas.
Après, j'ai eu la chance d'être français, parce que au Mexique, par exemple, au début, de loin, j'étais un Américain. Puis quand ils venaient me parler, que j'expliquais que j'étais français. Il y a clairement un volte-face de l'appréciation et de l'accueil.
D'accord, donc le français est bien
mieux perçu. Mieux que l'américain. Voilà.
Et toi, Ben, quels sont pareils? Tu as eu ce même ressenti aussi sur l'accueil des gens, le fait qu'ils t'ouvraient les bras facilement, qu'ils étaient prêts à t'aider?
Ouais, bien sûr. Après, moi, ça, je dirais que c'est partout dans le monde, hein. Même après avoir voyagé sans argent en Europe et tout ça, au final. Bon, c'est vrai qu'en étant français, ça aide, mais moi je dirais que c'est de partout. Après, effectivement, dans des pays plus en développement et tout ça, ils ont besoin d'être plus solidaires entre eux. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de solidarité de base, quoi, je dirais.
Et des mauvais moments, tous les deux, vous avez dit, ça y est, à part peut-être le bateau, vous avez des fois posé des questions,
on laisse tomber,
si vous allez arriver. Oh, ouais. Est-ce qu'il y a des moments, justement, où même vous avez eu vraiment peur de quelque chose, peut-être Adrien, une peur, pas de l'eau, mais je sais pas, de l'insécurité ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as ressenti ça à un moment donné ou pas?
Moi, il y a une fois où vraiment, ouais, je suis allé dormir dans une mairie, parce que vraiment, il y avait beaucoup de monde qui m'est. Enfin, vraiment tout le monde, en fait. Qui m'a dit, là où t'es, ouais, c'est dangereux si tu dors dehors. Demain, t'as plus rien et même pas ta vie.
Ouais.
Et il y a eu une autre fois, un autre endroit où j'ai ouvert les yeux à 4h du matin.
Ouais.
Et j'ai vu deux personnes en train de porter mon vélo. Donc c'est gentil, mais j'en avais pas spécialement besoin. Et donc voilà, j'ai eu de la chance d'ouvrir les yeux à ce moment-là.
Et de pouvoir récupérer le vélo.
Exactement. Bah, j'ai juste dit bon après-midi, puisque j'étais un peu dans les vapes quand même. Et ils sont partis en courant, en laissant mon vélo. Parce que bon, il pesait son poids quand même.
Et toi, Ben, il y a des moments où tu as eu un petit peu peur aussi?
Non, ça va, non, franchement. Non, plutôt bien. Après, quand j'avais vécu au Mexique avant, j'avais eu quelques expériences assez négatives, mais là, en vélo et tout ça, plutôt pas mal. Bon, aussi, j'ai eu des petits vols et tout. Justement, une fois au Costa Rica, je me souviens, où on m'avait volé ma bouffe. Heureusement, juste ma bouffe dans mon sac qui était juste à côté de moi, dans mon hamac. Et je me suis dit quand même, c'est bizarre, il y a des gens qui sont venus pendant la nuit juste à côté de moi, je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais heureusement, plus de peur que de mal.
Donc là, au niveau des périples, aussi bien l'un que l'autre, vous avez poursuivi encore? On n'est pas tout à fait à la fin, ou on est à la fin là, du voyage pour les deux?
Bon, moi, on est quasiment à la fin, parce que je ne suis pas sorti du Mexique, parce que je me suis donné comme magnifique objectif de vouloir passer par toutes les zones archéologiques.
Oui, c'est effectivement, toi, tu nous l'as dit au départ, une passion justement pour ça.
Et donc je me suis arrêté, j'ai fini celle de Oaxaca, et du coup il me restera le Chiapas, et quand même, il m'en manque beaucoup dans la péninsule. Donc
ça, c'est quelque chose que tu te projettes pour retourner, pour terminer.
Voilà.
Mais par le même système ou directement par l'avion, comme quelqu'un voyageur lambda?
Je vais retourner en avion, je ne pense pas avoir une autre année pour... voilà.
Oui, voilà, effectivement, voilà. C'est une année sabbatique. Je veux dire, professionnellement, voilà, vous avez mis tous les deux votre carrière en stand-by. Mmh. Même si elle a un super souvenir, voilà, on ne peut pas malheureusement ne faire que voyager, ça serait formidable. Mais, Donc toi, tu te projetterais pour retourner, pour finir un petit peu pendant un mois, faire vraiment le tour là, du Mexique, de toutes les choses que tu n'as pas pu voir?
Bon, un mois ou deux autres années. Hein, parce que pour l'instant, j'ai fait 93 zones archéologiques.
Oui.
Et bon, le but, c'est quand même d'arriver au Pérou.
D'accord.
Mon voyage se terminera au Pérou.
Et pour toi, Ben?
Bah, moi, je suis arrivé jusqu'au Pérou depuis le Mexique après, mais j'aimerais bien continuer jusqu'en Patagonie.
La Patagonie, toi qui t'intéresserais?
Ouais, j'aimerais bien terminer le continent, quoi.
Annette?
Non, tu voudrais aller voir Florent en panier.
Ouais,
d'accord.
Ben retourne au Mexique, là. Et tu pars mercredi.
Ouais,
voilà, toi, tu repars au Mexique. Pas pour les mêmes raisons, tu es moins accroché au niveau de. Pour visiter comme.
Bah, moi, c'est ma copine qui est mexicaine.
C'est voilà.
D'accord.
Oui.
Effectivement, donc ta copine est mexicaine. Et tu l'as connue au cours de ces différents périples ou pas du tout?
Non, je l'ai connue en 2018 pour un stage que j'avais fait pour mon école au Mexique.
D'accord.
Donc ça fait un moment que ça dure.
Ah oui, effectivement, c'est quelque chose qui est.
Toi ici, elle là-bas.
Moi ici, elle là-bas, et ouais, c'est.
D'accord. Initialement, il était parti pour passer Noël quand tu es parti au mois d'octobre 2021, tu étais parti pour faire Noël au Mexique, mais vu le péril.
Ouais, j'étais pas sûr d'arriver.
T'étais pas sûr d'arriver. Mais normalement, logiquement, c'était ton envie. Voilà. Et en fin de compte, bon, ben, ça s'est pas fait.
On l'a passé sur
le
bateau, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, moi, j'ai une question sur le vélo. Est-ce que réellement, vous avez fait beaucoup de kilomètres en vélo?
Ah ouais, moi j'ai fait plus de 10 000 km en vélo.
Ah oui, toi tu as fait beaucoup de vélo.
Ouais. Et puis les Andes, des fois c'est des kilomètres, enfin c'est 50 km de montée donc sans s'arrêter quoi.
Tous les jours tu donnais une, tu faisais une étape en vélo quoi, avec ton vélo tu partais.
Ah ouais, moi ouais quand même, j'aime bien le vélo, j'aime bien ce défi sportif aussi et ouais, voyager en vélo.
Et moi, je vois qu'Adrien craint la question là-bas. Même question pour Adrien.
Ah, il y en a un qui était en vélo, à côté du vélo.
Alors moi je sais pas du tout combien de kilomètres j'ai fait parce que enfin j'étais pas non.
Non,
je sais pas.
Est-ce que pour toi le vélo ça t'a vraiment été utile ou tu te dis finalement moi dans mon périple non. Le vélo il m'a plus emmerdé pour dire en français qu'autre chose. Est-ce qu'il m'a servi à quelque chose ou pas?
Ouais, y a des moments où oui, mais
mais des moments où tu te serais bien passé.
Exactement. Mais d'un autre côté, non. Franchement, le vélo, t'es plus rapide qu'à pied. T'as quand même le temps de voir le paysage. Tu vas où tu veux. Tu rencontres vraiment les locaux quand tu voyages en bus. Et bah, t'arrives d'un point A à un point B, si ça se trouve, entre les deux, t'as dormi puisque t'as voyagé de nuit, enfin bref. Non, et, enfin voilà.
Donc le vélo te permet effectivement de.
Le vélo, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, qualité-voyage.
Ouais, ça permet de voir les changements de végétation petit à petit, les changements de population petit à petit, de mériter aussi à chaque endroit où on arrive. Et ça, c'est vraiment aussi moi ce que je ressens avec le vélo. Les gens, ils sont vraiment impressionnés qu'on arrive jusque chez eux.
Ça interpelle. Chercher le mot, merci.
Et c'est plus qu'une personne avec un sac à dos. Là, c'est vraiment encore plus spectaculaire. Le vélo est énorme et tout ça.
Alors, on parle de vélo. Il y a un article là. J'ai vu deux jeunes qui partaient donc en mobylette. Ça revient un petit peu à la mode. Les vieilles mobs, il y en a qui remettent les vieilles bleues qui étaient très robustes à la mode. Ils ont tout un périple aussi à faire en mob. Ils en ont déjà fait sur tout un secteur assez lointain. Ils disaient que le côté justement d'arriver avec une mobylette, le côté très français. Alors, les amis, en plus, ils ont forcé un peu le trait avec la baguette de pain en plastique derrière pour faire vraiment le côté très franco-français. Ils disent que ça leur a amené énormément de portes. Les gens qui voyaient arriver, ces Français, là, on nous représente toujours avec le béret, la baguette de pain, mais eux, ils avaient forcé un peu le trait et ils en ont joué, et ça les a énormément aidés. Mais le vélo est un côté aussi, à ce côté-là aussi également.
Bien sûr. Ouais.
Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes qui hésitent, qui se disent, ah ouais, moi, le voyage, je veux trouver le boulot à côté de la maison, voyager, moi, c'est juste dans ma cité. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez vraiment de le faire ou pas? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Moi, je dirais que le plus dur, c'est le premier pas, ouais, clairement. Une fois que le premier pas, il est fait, en fait, après, on n'a plus le choix. Et c'est parti, quoi, en fait.
Tu veux dire le premier tour de roue?
Ouais.
Mais voilà, on revient, je suppose, vous êtes plus tous les deux, vous êtes plus les mêmes qu'au moment où vous êtes partis.
Non, clairement, oui, ça apporte beaucoup de choses, aussi longtemps comme ça. Se rendre compte que c'est possible de vivre avec, vraiment avec pas grand chose, avec l'aide des gens, avec notre. Tant qu'il y a la santé, franchement, on peut avancer.
Et toi, Adrien, même.
Pareil, même appréciation.
Même appréciation,
oui.
Sur le voyage qui ouvre vraiment l'esprit, qui permet peut-être de se rendre compte que dans notre pays, on n'est pas si malheureux que ça non plus.
Clairement.
Oui, je pense.
On apprécie beaucoup d'être en France.
J'ai vu des choses quand même. Ouais.
Est-ce que vous avez, alors, le regard de votre famille sur ce voyage, sur ce périple, est-ce qu'au départ, je suppose qu'il y a eu l'inquiétude des parents, est-ce qu'ils vous ont pris pour des fous, certains? Est-ce qu'ils vous ont trouvé vraiment changé en revenant, beaucoup plus zen? Qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu, peut-être toi, Ben, pour nous dire, sur côté parents, qu'est-ce que ça a donné?
Bon, moi, mes parents, ils savaient déjà que j'étais fou depuis un petit moment, quoi, parce que je leur avais déjà dit. C'est ça, à l'époque, à 17 ans, quand je leur avais dit que je voulais partir sans argent, comme ça. Ils me regardaient un peu bizarre, mais ils ont cru en moi. Et au final, non, je pense qu'ils sont fiers d'un côté, et puis ils sont contents quand même.
Parce que vous étiez en relation tous les deux continuellement avec les parents, vous avez moyen ou pas ou
quand il y a un petit peu d'internet, oui, on envoie un petit message. Ouais.
Et toi, de ton côté, Adrien, qu'est-ce que ça a donné au niveau de tes parents? Ils t'ont pris pour un farfelu, un fou, ils t'ont laissé faire, ils ont dit.
Non, parce que depuis que j'ai 6 ans, de toute façon, je voulais partir, donc ils étaient préparés plus ou moins psychologiquement à ça.
Oui, à partir de 6 ans, si tu commences à les préparer déjà, oui.
Mais du coup, au début, tout allait bien, puis bon, après, plus le temps passait, et plus j'avais la question récurrente de quand est-ce que tu reviens.
Et là même, tu leur dis, mais je vais repartir.
Exactement.
Voilà. Et professionnellement, tous les deux, est-ce qu'on peut arriver à caler le côté professionnel et le côté du baroudeur, du voyage, de l'envie de voyage? Est-ce qu'on peut arriver?
Moi là justement en rentrant j'ai trouvé une opportunité pour avoir un boulot saisonnier dans des voyages à vélo justement qui vendent des voyages
à vélo. C'est Backroads à Berne.
Exactement. Ouais. Donc du coup ouais c'est pas mal. Les saisons en Europe se passent d'avril à octobre.
Ouais.
Et donc du coup après le reste du temps c'est pour ça que je repars au Mexique là.
Donc saisonnier ça te permet toi de continuer ta passion du voyage tout en ayant le côté professionnel.
Exactement.
Et toi Adrien?
Moi je vais y postuler donc advienne que pourra.
Tu vas y postuler au même endroit que qu'Adrien parce que c'est la même chose qui ça te paraît sympa comme boulot.
Et oui. On se fait une petite pause musicale discute un petit peu plus des impressions dans le final.
Ouais, tout à fait. Allez, on repart avec Robert Palmer et Waking Up People suivi de Aluna Chami et Karen Lomax et on se retrouve donc juste après nos invités Adrien et Ben pour clôturer un petit peu ce long voyage et ce périple.
TVFM à Bédouin en DAB+.
Check yourself before you wreck yourself.
Voilà, c'était Luna Chani et Karine Lomax, Running Blind. Voilà, et on continue avec nos invités. On va clôturer cette belle interview. On espère qu'on leur a laissé le temps nécessaire pour nous faire.
Il y en a qui doivent rêver.
On a bien rêvé. Tous ces voyages.
À l'autre bout. Vous savez, qui écoute Poste, un DAB. Ils doivent être fous.
Donc on est toujours avec Adrien et Ben, et toujours avec Annette.
Je suis toujours là. J'aurais beau essayer, je suis encore là.
T'es encore là, Annette. Ben, on va peut-être clôturer un petit peu donc cette. On a parlé
péripéties.
On a parlé du voyage. On a parlé que vous alliez repartir un petit peu tous les deux parce que je pense que quand on a le virus du voyage, on le garde. Hein, si j'ai bien compris, Adrien et Ben.
C'est possible.
C'est possible. Sinon, est-ce que vous avez quelque chose d'autre que dans l'avenir que vous aimeriez faire en dehors du fait de retourner au Mexique tous les deux? Bon, toi, on comprend pourquoi aussi également, Ben, puisque t'as ta copine qui est là-bas. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que vous voudriez faire? Tu nous as parlé un peu de Patagonie aussi à un moment donné.
Ouais, bah moi j'aimerais bien continuer à voyager à vélo parce que c'est des super moments. Et puis il y a quand même un bateau à voile, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas en acquérir.
T'as une âme un peu de navigateur, c'est quelque chose qui te branche.
Ouais, là après la traversée atlantique et tout ça. Et le fait on allait revoir le capitaine là, la semaine dernière justement, oui. pour prendre des nouvelles. Et le fait de retourner sur le bateau, incroyable quoi.
Et ça te donnerait, je veux dire, t'as vraiment envie de cette âme de navigateur, c'est quelque chose que
Ouais, et puis un bateau, un vélo, le monde il peut se terminer. Plus de pétrole, plus rien, nous on peut quand même continuer.
Et prends toi aussi, quoi. Tu accepterais d'avoir du monde dans ton bateau, exactement, refaire la même chose
ouais.
parce que tu as pu.
Bien sûr, ce serait génial de rendre l'appareil, effectivement.
Et toi, Adrien?
Je sais pas. Déjà, je termine le voyage et après, je verrai.
Et après, tu verras, tu te laisses un peu le temps au temps.
Exactement. Parce que le voyage n'est pas encore terminé, vu comme j'avance tranquillement.
Ouais, on voit que vous ne fonctionnez pas à la même vitesse tous les deux. Ouais. On voit que vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire.
Il faut dire que Ben, il est depuis 17 ans, donc il baroude, alors que Adrien, c'est son premier à peu près gros.
Récent.
C'est plus récent. Donc ça va aller.
Oui, mais Adrien change de vélo. Si tu allais plus vite.
Change de braquet, qui va te dire.
Change de braquet.
Possible. Alors, non, moi j'ai une question qui me chatouille un tout petit peu. Bon, le périple a été long. Vous avez été ensemble, un peu séparés, mais. Jamais vous vous êtes engueulé, par exemple.
Si, il peut forcément y arriver.
Non, parce que la proximité,
plus de tension que.
Et en plus, on voyage sans argent et tout ça. Du coup, on doit vraiment fonctionner en tant qu'équipe et tout ça, quoi. Mmh. Des fois, non, mais justement, c'est pas forcément engueulé, mais on se disait les choses qui allaient pas. Comme ça directement.
Ça, c'est normal.
Je pense que c'est comme dans un couple, ça renforce finalement l'amitié. Je pense que c'est le ciment de l'amitié, le ciment du couple. On se dit les engueulades.
Ça a été très bien de voyager à deux, très bien de faire une partie aussi séparée, d'avoir pu.
Les petits apéros. J'ai compris avant, j'ai entendu.
Non, mais se séparer aussi, ça a été bien pour nous deux après d'avoir chacun nos rythmes et tout ça. Et puis au final, là, quand on se retrouve, c'est génial.
C'est
quoi.
Ça,
je peux vous le dire.
Et comment on met. Quand il y a un petit coup de blues en dehors du petit rhum à l'apéro, comment on arrive à passer un petit peu ce cap du coup de blues à un moment donné? Il y a peut-être des doutes, ça doit arriver un petit peu. Non? Il y a l'un qui remonte le moral de l'autre, où on se dit, tiens, il faut avancer, parce qu'en fin de compte, il faut avancer, quoi.
Oui, après, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Si t'avances pas la jambe, t'avances pas, donc.
Et justement, le vélo, il y a une belle métaphore vis-à-vis de ça. Le vélo, c'est comme dans la vie, pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer, quoi.
Oui, effectivement.
Ouais. Et c'est ça, en fait. Après, une fois qu'il y a l'objectif, on continue pour
En fait, joli périple, mais quand même une belle leçon de vie aussi.
Ouais, bien sûr. Non, il faut. Ouais.
De toutes vos rencontres, de vous,
de nos limites,
ce que vous avez vécu.
Et de l'ouverture d'esprit, parce que on discutait de la République dominicaine en disant il y a le côté tourisme et de l'autre côté il y a le côté que les gens veulent pas voir, quoi. C'est une ouverture d'esprit, se dire et de regarder dans le monde comment ça fonctionne. Qu'ils ont beaucoup appris.
C'est normal, ça fait un peu le faste de Rio et les favelas à côté.
Exactement.
C'est un petit peu ça.
C'est ça.
Est-ce qu'on reste toujours un petit peu informé par rapport à ce qui se passe dans le monde, ou il y a une coupure qui se crée justement là-dessus par rapport à tout ce qui se passe autour?
Moi, ça dépend de la connexion Internet.
Ah oui, c'est une bonne réponse. C'est vrai qu'Internet, c'est mondial, donc ça permet de rester un petit peu en contact avec tout ce qui se passe, avec la réalité.
Et justement, aussi de ne pas être avec Internet, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que tu vas vers les gens, tu laisses les gens venir à toi, alors que si t'as Internet tout le temps, non.
Et votre vision à tous les deux, justement, sur cet univers hyper informé, trop informé et déformé qu'on vit actuellement, que vivent les jeunes comme vous, qui sont perpétuellement sur des réseaux à regarder des fake news ou pas. Qu'est-ce qu'a eu votre regard, justement, vous qui avez pas mal voyagé?
Et ben justement, je suis pas sur les réseaux.
Voilà.
Voilà.
Et toi, Ben ?
Ouais, non, bah, c'est vrai que pendant ces voyages-là, on est assez déconnecté quand même du monde en général. Et en final, on se rend compte qu'en allant voir les choses par nous-mêmes, on a une totale.
Mais alors, en disant manque d'Internet ou Internet des fois très limité, mais alors vous communiquez comment ? Par Skype, Zoom ou un truc comme ça ?
Ouais, WhatsApp de temps en temps. Si
vous n'êtes pas sur les réseaux, il fallait quand même communiquer.
Bah après, une fois qu'on est dans le voyage, pas forcément. On a notre vélo, de quoi dormir, de quoi manger. On n'a pas forcément besoin d'internet au final. On télécharge les cartes qu'on peut avoir sur notre ou en demandant aux locaux. Et puis il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'internet au final.
D'accord.
Alors la famille avait certainement beaucoup de temps en temps des nouvelles. Mais nous on suivait quand même un peu le périple aussi. Jusqu'en Guadeloupe ça a été, on a réussi à les suivre. Puis après bon, comme ils sont séparés. Ça a été un peu plus difficile, hein, mais on demandait aux copains.
Il fallait prendre deux appareils différents.
Oui, c'est ça.
Pas sur le même.
En tout cas, il y a beaucoup de choses à retenir pour clôturer cette interview. J'aurais beaucoup de choses à retenir. Bon, la petite phrase que je retiendrai, c'est pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Donc ça, c'est Ben. Et on se rend compte aussi également qu'on peut vivre sans les réseaux sociaux. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut largement vivre et survivre sans toute cette information et des informations. Mais justement, c'est en s'ouvrant vers les autres et en osant aller, en quittant peut-être son pays, et aller voir ce qui se, par rapport à, aller voir ce qui se passe ailleurs.
Sans faire de pub à une émission en ce moment, c'est revenir à l'instinct primaire.
Allez, revenir à l'instinct primaire, oui. Mm-hmm. Et Annette,
un peu.
Non, moi, c'est le mot d'Adrien, où je lui ai demandé quelles étaient ses limites, et il m'a dit 30
km. 30 km, c'est vrai, ça cite. En tout cas, Ben et Adrien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un peu de votre temps pour venir nous présenter. On espère que peut-être vous avoir une prochaine fois sur un nouveau périple, de retour d'un voyage, aussi bien l'un que l'autre, ou les deux à la fois, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Justement, ça fait plaisir d'entendre un petit peu cette jeunesse.
Plaisir partagé.
Merci à cette jeunesse qui ose, justement, et ça fait du bien d'entendre et d'avoir justement un discours positif. Voilà, c'est très bien, c'est formidable.
Prochain périple, on les prend en insert téléphonique, là où ils sont.
Là où ils sont, tout à fait. Merci. Merci à tous les deux.
Merci
et puis bonne chance pour l'avenir. Puis peut-être à très bientôt.
Merci
à
très beaucoup.
RTVFM.